Le journal présenté par Cédric Hermel.
Bonjour à tous. Christine Renon, encore dans toutes les têtes à Pantin. Une centaine de personnes a rendu hommage ce matin à la directrice d'école qui s'est suicidée il y a 2 semaines. Un rassemblement pour alerter sur les conditions de travail dans les écoles maternelles. Une première déclaration et peu d'explications. 3 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, s'est exprimé cet après-midi et parle notamment de contacts entre l'auteur des faits et certains individus de la mouvance salafiste. En Irak, la situation reste chaotique. Plus de 100 morts et 4000 blessés dans des manifestations contre la corruption et la déliquescence des services publics. Et enfin, des élections pour un jeune pays. Le Kosovo renouvelle son parlement dans un scrutin au-dessus duquel plane l'ombre des États-Unis. Les rues de Pantin sont encore tristes à l'image de ses habitants. Plusieurs centaines de personnes ont participé ce matin à une marche blanche en hommage à Christine Renon, la directrice d'école qui s'est suicidée il y a 2 semaines. Elle avait dans une lettre dénoncé ses conditions de travail. Dans le cortège donc, des proches, des enseignants, des directrices et directeurs d'école de Pantin. Bonsoir Nourane Mahmoudi.
Bonsoir.
Tous étaient touchés par la mort de l'enseignante.
Ambiance grave lors de la marche en mémoire de Christine Renon. Pas de colère dans les rangs, mais une profonde tristesse et un désir de rendre hommage à une femme qui aura tout fait pour son métier. Claire, professeure des écoles en Seine-Saint-Denis, fait part de sa résignation.
Bizarrement, j'ai pas été étonnée d'une certaine manière que des personnes puissent en arriver à un acte aussi extrême. Et je l'ai envisagé très rapidement comme un acte politique, pour pas dire un sacrifice politique.
Pour les parents d'élèves, l'acte de Christine Renon sonne comme une mise en garde, notamment pour Chloé Bocard, déléguée des parents d'élèves, qui ne cache plus son inquiétude face au système éducatif.
J'étais pas inquiète jusque-là, parce que je suis quelqu'un de très positif et j'ai espoir dans l'avenir, mais oui, là je suis inquiète quand même. Si le ministre fait pas quelque chose, je pense que oui, les parents ont matière à s'inquiéter.
Le geste ultime de Christine doit être entendu.
La marche s'est achevée à l'école primaire Méhul à Pantin, l'ancien établissement de Christine Renon, où ses collègues lui ont rendu un ultime hommage. Ils ont également tenu à redire ce qu'est, aujourd'hui, un directeur ou une directrice d'école et la charge de travail que cela implique. Au total, plus d'un millier de personnes étaient présentes.
Merci beaucoup, Nourane Mahmoudi. Première déclaration et premiers éléments concrets dans l'enquête sur l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris jeudi. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard s'est exprimé donc cet après-midi. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il existe un lien entre l'assaillant et les milieux salafistes lors de Beaulieu.
Eh bien, le procureur a été très précis sur ce déroulé des faits, justement, jeudi matin, où on apprend que l'assaillant est allé travailler, finalement, comme tous les jours, à la préfecture de police. Et puis, il est sorti à la mi-journée. Il s'est rendu tout près de là, dans un commerce, rue Saint-Jacques, pour acheter 2 couteaux de cuisine. Et c'est là, donc, il est revenu dans les locaux de la préfecture de police, où les personnels étaient en train de déjeuner, pour certains, dans les bureaux. Il s'en est d'abord pris à 2 personnes qui étaient dans son bureau. Et puis, a poursuivi ainsi son déroulé meurtrier en croisant un petit peu au hasard. On a appris également qu'il avait tenté de rentrer dans une pièce où 3 personnes se trouvaient, mais la porte était fermée à clé. Donc ces personnes ont eu la vie sauve. Il ne s'est pas attardé. Et puis, jusqu'à ce qu'il croise dans la cour le jeune policier de 24 ans qui lui a tiré dessus, donc sur lequel il s'était jeté avec son couteau. L'attaque a duré 7 minutes. Ce qu'il faut aussi retenir, ce sont ces SMS qu'il a échangés avec son épouse le matin même des faits, 33 SMS où il est question uniquement de questions religieuses, où il explique d'ailleurs même ce que précisait le procureur, c'est qu'il avait l'intention, sa volonté avérée donc dans ces SMS de mourir après son acte.
Et de leur côté, les policiers s'inquiètent du nombre de radicalisés au sein des forces de l'ordre. Il serait 10 selon le syndicat alternatif police CFDT. Une radicalisation qui inquiète également le parti Les Républicains qui va demander une enquête parlementaire sur le sujet lundi. Une centaine de femmes ce matin au cimetière du Montparnasse pour protester contre la hausse des féminicides en France. On en dénombre 114 cette année, selon l'association Nous Toutes contre 121 en 2018, alors que le Grenelle contre les violences conjugales se poursuit actuellement. L'Irak, toujours sous tension, le bilan des manifestations s'alourdit. Il s'élève désormais à plus de 100 morts et plus de 4000 blessés, selon des chiffres de la Commission des droits de l'homme irakienne. Le mouvement a débuté mardi pour protester contre la corruption, le chômage et la faillite du service public dans le pays. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Habitué à protester donc contre la déliquescence du service public, le mouvement montre que le malaise des Irakiens est beaucoup plus profond.
Oui, les manifestants en sont arrivés cette fois à demander la chute du régime. C'est un phénomène inédit que les responsables irakiens, pour beaucoup aux affaires depuis 16 ans, ont vu se dresser devant eux, analyse un politologue sur place. Le régime repose sur une répartition confessionnelle et ethnique des postes et a créé népotisme et clientélisme que la population rejette. Plus que des promesses d'aide ou de réformes pour satisfaire cette population, il faudra des changements majeurs et des décisions radicales, comme le limogeage des grands noms de la politique accusés de corruption, estime un autre analyste irakien. Pour l'heure, en tout cas, une réunion en urgence du Parlement prévue ce matin n'a pu se tenir faute de quorum. L'un des principaux leaders chiites, Muqtada Sadr, à la tête d'une coalition qui compte 54 députés, a décidé de la boycotter. L'homme qui avait déjà organisé il y a quelques années des sit-ins de protestation a appelé hier à la démission du gouvernement d'Abdelmahdi pour éviter davantage d'effusions de sang et il réclame des élections anticipées sous supervision de l'ONU. L'influent dirigeant chiite semble vouloir reprendre à son compte la principale revendication des manifestants qui pourtant se disent non partisans. Le mouvement est né via les réseaux sociaux, il se dit donc spontané et refuse que l'on parle en son nom. L'Irak est le deuxième producteur de pétrole de l'OPEP, mais le pays a été ravagé par des guerres et ses dirigeants sont en peine d'améliorer les conditions de vie de 40 millions d'habitants.
Merci beaucoup Nabila Hamel pour ces précisions. C'est du harcèlement et je ne le permettrai pas à l'égard de mon équipe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'insurge contre les demandes de documents de son ministère par le Congrès alors que les parlementaires américains enquêtent en vue d'une procédure de destitution contre Donald Trump, accusé d'avoir demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur le démocrate Joe Biden. Une grève de la faim dans la prison d'El Arach en Algérie. Une dizaine de détenus protestent contre une atteinte à leur liberté, incarcérés alors qu'ils participaient à une manifestation contre le pouvoir en place. Des interpellations qui se poursuivent. La dernière en date, celle de Hakim Haddad de SOS Racisme, actif dans le Irak, à savoir les manifestations qui ont entraîné la chute d'Abdelaziz Bouteflika. C'est une toute jeune nation des Balkans qui s'apprête à renouveler son parlement. Le Kosovo, petit pays coincé entre l'Albanie et la Serbie, organise des élections législatives demain. Un scrutin encore marqué du sceau américain, 20 ans après l'intervention militaire des États-Unis pendant les guerres d'indépendance qui ont ravagé l'ex-Yougoslavie. L'Amérique, qui sert de modèle politique à cette jeune nation et conserve un large soutien dans le pays, Louis Cellier.
Après 30 ans de carrière de juriste aux États-Unis, John Ferry a commencé à travailler au Kosovo il y a 15 ans. Il se rappelle son arrivée à Pristina.
Je suis allé à une petite épicerie et le gérant voulait tout simplement me donner tout ce que je voulais acheter, simplement parce que j'étais américain.
Au Kosovo, le drapeau américain est partout. Cette américanophilie ne facilite pas toujours le travail d'expert de John Ferry auprès des magistrats kosovars.
Quelque part, c'est un avantage, mais c'est aussi un piège parce que le Kosovo est un pays européen. Et je ne veux pas qu'on accepte un concept simplement parce que c'est un Américain qui l'articule.
Même avec Donald Trump, depuis l'intervention américaine il y a 20 ans, les Kosovars restent le peuple le plus pro-américain au monde. Anila Sulay travaille pour la Chambre de commerce américaine de Pristina.
Ils nous ont aidés à être ce que nous sommes aujourd'hui, à avoir un État et à être libres. Et c'est pour ça que nous sommes plus tournés vers les Américains.
Cette idéalisation des États-Unis vient aussi des divisions de l'Union européenne sur la question du Kosovo. C'est ce qu'explique Adri Nourelari, expert en relations internationales.
D'un côté, les États-Unis ont été déterminants tout au long de notre histoire, surtout dans les époques les plus sombres. Et de l'autre côté, Bruxelles nous envoie des signaux contradictoires. Nous nous en sentons aussi exclus.
Le lien privilégié du Kosovo avec les États-Unis devrait encore se renforcer. Début septembre, Washington a nommé un nouvel envoyé spécial afin de relancer le dialogue avec Belgrade.
Louis Cellier à Pristina, capitale du Kosovo, pour France Culture. Le temps, pour finir, ce soir avec des nuages au nord d'un axe Brest-Annecy avec de la pluie accompagnée de quelques petites rafales en Bretagne. Demain, les cumulus devraient se généraliser à presque tout le territoire, excepté sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse, avant une amélioration demain après-midi avec l'arrivée du soleil par la Bretagne. Quant aux températures, on attend 13 degrés à Charleville-Mézières et Aurillac, 16 degrés à Cherbourg et la maximale, 23, ce sera pour Nîmes et Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Caroline Bento.